On était interrompu, on n'a pas chanté mort, mais on avait pris l'habitude d'avoir deux par chiotte. On en a encore une fois deux. Et donc, les deux dernières du Sefer Vayikra. Alors, d'abord, Parshat Behar. Parshat commence, comme chacun sait, « Vaydaber Hashem el Moshe behar Sinai, les morts. » D'abord, Bnei Israël, parle au Bnei Israël, Ve Amarta, et parle au Bnei Israël, et tu leur diras, à l'Ehem, donc, tu leur diras, Itavou, El Haaretz Asher Ani Noten Lachem, quand vous arriverez, quand vous viendrez dans le pays que je vous donne, Veshavta Haaretz Shabbat Lachem. Alors la terre devra faire un Shabbat pour Hachem. Et puis on explique comment la terre va faire un Shabbat pour Hachem. Pour Hachem, c'est que pendant 6 ans, effectivement, tu iseras sa decha, tu vas ensemencer ton champ pendant 6 ans, bon, etc. Même chose pour la vigne, tu récolteras. Et la 7e année, Shabbat Shabbaton Yelaharetz. Il y aura un Shabbat Shabbaton. Je vous rappelle, on avait vu, Shabbat Shabbaton, c'est un petit Shabbat. C'est pas un plus grand Shabbat, c'est un plus petit, c'est un petit Shabbat par rapport au Shabbat de Bereshit, par exemple. Shabbat Hashem, Simcha Lo Tizra, à ce moment-là, tu n'en semenceras pas et tu ne travailleras pas, tu mettras pas ta vigne, tu tailleras pas ta vigne, en fait. Et puis bon, on entre dans le détail. Et bon, alors tu pourras manger, mais tu pourras pas te comporter en propriétaire de ton champ, parce que n'importe qui va pouvoir venir et manger dans ton champ. Et puis ensuite, on nous dit que il faudra compter 7 septaines, cette fois-ci les septaines d'années, pas les septaines de semaines, comme celles qu'on est en train de compter. Et voilà, de nouveau, on nous souffle le résultat de la multiplication, 7 fois 7, 49. À ce moment-là, on fera passer une sonnerie de chauffard. Le 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri, et à Sor la Chodesh, Yom Kippour. Et à ce moment-là, Taviro, c'est là que vous ferez passer cette sonnerie dans tout votre pays. Vous allez sanctifier cette année-là, cette 50e année, et il y aura effectivement la libération des esclaves. Et puis le retour de chacun à son champ patrimonial, en fait. Les gens en sortiront. C'est Yovel. Ce sera le Yovel, 50e année. Là non plus, donc on n'en semencera pas et on récoltera pas, etc. Le Yovel, c'est Kodesh Tiyeh Lachem. Il sera sanctifié pour Hachem. Sanctifié, donc. Et cette année-là, de nouveau, il répète, le texte répète, « Ashuvu ish el achuzato », chacun va retourner à sa propriété, en fait. Et puis, du coup, ça va donner un sens à toutes les transactions qui vont concerner justement ces champs. Et en fait, sur la terre d'Israël, on n'achètera pas un champ au sens habituel du terme, mais on n'achètera que des récoltes, en fait. Puisque le champ, en fait, qui est vendu, il est vendu, et ça n'ira pas, cette vente n'ira pas au-delà de 50 ans. Alors, du coup, quand on achète un champ, et que Ce rythme de 50 ans, il est indépendant du moment où vous achetez, comme le Shabbat de la semaine, ça vient tous les 7 jours, ici ça reviendra tous les 50 ans en quelque sorte, ça va revenir. Donc, quand vous achetez à un certain moment, vous êtes à un certain moment du laps de temps, dans ces 50, ils ont vous acheté à un certain moment, vous êtes à 22 ans de ce Yovel, donc vous allez avoir 22 récoltes. En fonction des récoltes, vous allez payer le champ au prix de nombre de récoltes en fonction. Et pas du tout, c'est plus du tout une possession au sens habituel du terrain, de la terre, du champ. Simplement, vous achetez des récoltes. Alors là, c'est le début de Parshat Bahar qui parle de cette mitzvah du Shabbat de la terre. Alors bien sûr, on a un petit problème. C'est que le texte dit Vaydaber Hashem el Moshe be'ar Sinai lemor. Hashem parle à Moshe Rabbeinu au Sinai pour que Moshe Rabbeinu lemor, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu doit répercuter ce qu'il lui a dit, mais il ne lui a rien dit pour l'instant. Puisque ce qu'il va lui dire, c'est de nouveau Daber el Ben Israël ve'amarta. Parle au Ben Israël et tu leur diras. Donc c'est à la limite pourquoi est-ce qu'il faut lui tu parles au Bnei Israël, tu leur parleras. Alors il y a le Dibour et la Amira. Taber Bnei Israël, ça veut dire en principe tu leur parles durement. Ve'amarta, tu leur parleras doucement. C'est-à-dire comme si l'entame, ça veut dire il faut commencer à parler sur un ton un peu dur, mais immédiatement, ça devient tout de suite doux, et à Martha, tout de suite, ce que tu vas dire les choses très enrobées, très faciles à entendre. Plus facile à entendre. Mais en fait, comme vous avez bien compris, ce qui est dit là, c'est que c'est une vraie révolution. Cette terre d'Israël, elle nous est donnée, c'est notre terre, mais tout est fait, et ici encore plus que partout ailleurs, plus que avec la Trouma, le Maaser, etc. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas se prendre pour le vrai propriétaire. Pour le propriétaire. Le vrai propriétaire, c'est évidemment Hachem, comme on le dit dans le commentaire de Rachid du premier passouk de la Torah. Et on a une terre, elle est à nous, mais surtout ne te prends pas pour le propriétaire. Pour que tu ne puisses pas te prendre pour le propriétaire, je te mets tout de suite une halakha, qui est du type Shabbat, c'est-à-dire Shabbat par opposition à ce qu'on avait vu dans les Moadim. Les Moadim, ce sont les Bnei Israël qui allaient déterminer quand seront les Moadim. Comme on avait expliqué longuement, Hachem dit, voilà, vous avez rendez-vous le 15, mais c'est nous qui disons quand sera le 15, puisque c'est nous qui disons quand sera le premier du mois. Par contre, le Shabbat, il ne dépend pas du tout de nous. Le Shabbat, il s'impose, il revient régulièrement tous les 7 jours. Ici aussi, il y a quelque chose qui ne dépend absolument pas de nous, et qui vient s'imposer un temps, qui s'impose à nous pour limiter notre pouvoir, si on peut parler comme ça, limiter cette idée de se sentir propriétaire. Et alors, la première question qui vient, elle vient avec Rachid. Rachid dit, tout le monde connaît, « Ma'inan Shmita et Tselar Sinai ». Pourquoi est-ce que l'entrée de la paracha, c'est « Vaydaber Hashem el Moshe, Behar Sinai les morts. On précise ici qu'on revient complètement en arrière et on parle de quelque chose qui a été dit à Moshe Rabbeinu au Har-Sinaï. Donc, quand vous avez un passage comme celui-là, vous avez l'impression que jusqu'alors, on a parlé de choses qui n'ont pas été dites à Moshe Rabbeinu au Sinaï, mais qui ont été dites ultérieurement, après le Sinaï, en permanence. Moshe Rabbeinu était en permanence en position de parler avec Hachem, d'interroger et d'être appelé par Hachem pour Hachem lui donne des directives. Mais ici, on te dit, voilà, on dit ici, ça a été dit au Sinaï. Alors, pour la question, Rashi explique, la question, Ma'inyan Shmita et Tzelar Sinaï, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que la Shmita, le sujet Shmita, il faut dire qu'il a été dit au Sinaï. En d'autres termes, c'est pas du tout quelque chose qui va être dit au moment où les Bnei Israël vont entrer en Eretz Israël. C'est dit à un moment où les Bnei Israël sont au Sinaï, sont dans la fin de la sortie d'Égypte, si vous voulez, que le Sinaï. Mais alors, kol ha-mitzvot ne'emru mi-Sinaï. Toutes les mitzvot ont été dites mi-Sinaï. Elles viennent toutes du Sinaï. Alors, ma-shmita ne'emru, qu'est-ce qu'on veut dire par là? La shmita ne'emru klalotea ufratotea v'digdukeha mi-Sinaï. Je veux dire ici, la chose particulière, c'est que ce qui, semble-t-il, pourrait nous induire en erreur, c'est que au Sinaï, quand on a parlé de la Shemitah, Akadosh Baruch Hu a dit les choses, les principes généraux, il est entré dans les détails et même dans les plus petits détails, les pratim et les digdukim. Tout ça, ça a été dit au Sinaï. Et alors, Kakusa nous est dit ici, pour dire, Av kulam nemru, donc toutes les mitzvot, pas seulement celles-ci, toutes les mitzvot ont été dites au Sinaï, c'est-à-dire elles ont été dites de façon générale, avec tous les dikdukim. Je n'ai pas répété les pratim, mais si on est allé jusqu'au Dikdukim, le Sinaï. Tachnuya betorat kohanim. Alors, Rashi dit, voilà, c'est comme ça que c'est enseigné dans le Midrash Halakha, qui s'appelle Torah kohanim. Bon. Et maintenant, Rashi donne son interprétation. Rashi dit, Benireli, Kar Pirusha. Qu'est-ce que le Torah kohanim vient nous dire ici? Le fi, Shelo Matsinu, Shmitat Karkaot, Shenishnit, Be'avot Moab. Le Mishneh Torah. Il y a, dans le Mishneh Torah, dans le Sefer Dvarim, il y a beaucoup de mitzvot qui ont été dites jusque-là et qui sont répétées dans le Sefer Dvarim. Elles ont été redites dans le Sefer Dvarim et dans le Sefer Dvarim, on nous montre que, on nous indique que Moshe Rabbeinu a reçu ces mitzvot, lui ont été dites durant la période de la traversée des Arvot Moab. Alors, du coup, la Magdouche et Klalotea ou Pratotea, Kulam Nemru ou Misinai. Puisque ça n'a pas été répété, on est bien obligé de penser que tout ce qu'on a à savoir de la Shemitah a été dit la seule fois où Hachem nous a parlé de la Shemitah, à savoir au Sinaï. Ça veut dire, bien sûr que tout a été donné au Sinaï. Moshe Rabbeinu a reçu toute la Torah au Sinaï. Mais, puisque les choses ont été répétées par Vot Moab, elles sont répétées, on en voit la trace dans le Sefer Dvarim, alors on pourrait penser, bon ben d'accord, alors ça veut dire qu'Hachem a donné les grandes lignes au Sinaï, et puis les détails, il nous les a donnés au fur et à mesure dans le Havot Moab. pour toutes les mitzvot. Or, dans le Sinaï, puisque on a parlé de la Shemitah et qu'ensuite on n'en a pas reparlé, ça veut dire qu'on a tout reçu au Sinaï pour qui concerne la Shemitah. Et donc, ça vient nous donner une leçon. Kulan nemro mi Sinaï, uba katuv loma velamad kan. Le verset vient nous enseigner alkol dibur. Ça vient nous enseigner que toutes les paroles Shinvar le Moshe Shemi Sinaï ayukulam klalotehem digdukehem vechazru venishnu be'avot moach. Donc, puisque la Shemitah, on est obligé de dire que tout a été dit au Sinaï, alors, en quelque sorte, dit Rashi, il n'y a aucune raison de penser que la Shemitah avait un traitement spécial. Donc, si cette mitzvah-là a été donnée avec tous les détails au Sinaï, ça veut dire que toutes les mitzvot ont été dites avec tous leurs détails au Sinaï. Aïe, ça, on voit bien que ça a été répété. Ok, ça a été répété par votre Moav, pas pour toutes, en particulier pas pour la Shemitah, mais au Avot Moav, c'est une répétition. Donc c'est vraiment un Mishneh Torah, c'est vraiment une répétition de la Torah qui a lieu avec les mitzvot qui sont données, qui sont répétées dans Avot Moav. Donc vous voyez, ça nous enseigne que la Shemitah, elle a le même din que toutes les mitzvot, tout a été dit au Sinaï, mais certaines choses ont été répétées par votre Moab, pas tout, et en particulier par la Shemitah. Donc la Shemitah a quand même un statut particulier, c'est que ça n'a pas été répété. Ça a été dit au Sinaï, tout a été dit au Sinaï, et ce qui nous est dit là vient nous enseigner que c'était le cas pour toutes les mitzvot. On aurait pu se tromper, puisque on voit bien que certaines mitzvot ont été répétées par votre Moab, on aurait pu penser qu'elles sont pas répétées telles quelles, simplement elles sont développées. Mais il n'en est rien. Les mitzvot, elles sont seulement répétées d'un bar votre Moab. Donc là, c'est important. Elles ne sont pas... on n'a rien appris d'autre, si vous voulez, sur ces mitzvot que ce qu'on avait déjà entendu au Sinaï. Donc, c'est vrai qu'en théorie, on doit se demander, mais pourquoi certaines ont été répétées et d'autres n'ont pas été répétées? Si tout avait été répété, alors non, tout répété. Mais pourquoi est-ce que certaines mitzvot sont répétées et d'autres pas? En particulier, pourquoi la Shemitah n'a pas été répétée par votre Moab? Donc, ça c'est une question qu'on peut poser comme ça, mais on va pas s'arrêter à ça pour l'instant. On va s'arrêter sur une répétition, mais la répétition, elle a lieu immédiatement dans la paracha ici. Pourquoi est-ce que le din de la Shemitah est dit deux fois ici? C'est dit deux fois. C'est répété, si vous regardez ce qu'on a lu. D'accord. C'est marqué ensuite une deuxième fois dans le pasuk Vav, Vaita, Shabbat, Ares, Lachem, etc. Donc, on répète simplement quelque chose qui a déjà été dit. Ensuite, c'est répété, Vesaparta, Shema, Shabbat, Kotana. C'est pourquoi cette redondance, en quelque sorte, de cette mitzvah dans le texte immédiatement. Il y a bien une répétition, mais on n'a pas attendu à votre Moab. Immédiatement, ça a été dit deux fois ici. D'abord, el bene Israël, ve'amarta alehem. Pourquoi effectivement, la Torah, elle commence là aussi à répéter les choses. L'ordre de la, c'est répété deux fois. Bon. D'abord, bien entendu, ve'amarta alehem. Alors, le Rav David Hofstetter, il explique en disant que pour bien comprendre, il faut réfléchir à ce qui s'est passé vraiment au Sinaï. la Torah ici, elle nous parle de Behar Sinai, les morts. Ils disent que les Bnei Israël sont tenus au pied de la montagne, Tarpitar, et c'est de là qu'on apprend la fameuse histoire que Kafa Kadosh Baruch Hu Alemetar Kegigit. Hachem a retourné la montagne comme une comme une guiguite, ça veut dire, en fait, comme une ruche, en fait. Vamar lahem, imatem mekablim haTorah mutav, vimlav, sham te kvoratchem. Si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, c'est là que vous serez enterré. Et le Rahamim demande, mais pourquoi est-ce qu'Hachem a retourné la montagne sur eux? Quand Hachem leur a demandé « Est-ce que vous voulez accepter la Torah ?» les Bnei Israël ont pourtant dit « Sans aucune contrainte, Naaseh v'nishma. » Donc pourquoi est-ce qu'il fallait retourner la montagne ? Alors il y a différentes réponses qui ont été données. Il pose encore une deuxième question. Si c'est vrai qu'il fallait retourner la montagne sur eux pour qu'ils acceptent la Torah. Donc ça veut bien dire que leur acceptation de la Torah n'était pas complète. Donc c'est seulement sous la contrainte qu'ils ont accepté la Torah. Alors la question, c'est comment se fait-il qu'on fasse tout un plat d'Israël, ils ont dit « Naaseh v'nishma », etc., jusqu'à ce que c'est tellement valorisé au point que il y a cette fameuse bat kol qui dit Migila les banaï, qui est-ce qui a dévoilé à mes enfants, demande Hachem, ce secret que les malachi acharet, que les anges de service utilisent. Alors, il propose d'expliquer de la manière suivante. Bien sûr, les Bnei Israël, ils voulaient bien sûr accepter la Torah et les mitzvot, sans aucune contrainte. Néanmoins, il fallait les menacer, il fallait leur imposer cette contrainte de la montagne. Parce que si on accepte la Torah, parce qu'on a choisi de l'accepter, parce qu'on a voulu l'accepter, il y a un manque en quelque sorte, un défaut dans cette acceptation. Parce que quand les choses arrivent dans ce qu'il appelle le Olam HaMaaseh, quand les choses arrivent dans le monde de l'action, dans le monde, dans notre monde, si vous voulez, alors peut-être que celui qui avait décidé de l'accepter, etc., peut-être que il va y avoir des obstacles qui se présentent et qui pourraient l'empêcher de continuer de vouloir accepter, alors que quand on a accepté sous la contrainte, puisque il y a cette contrainte, eh bien on ne va pas revenir en arrière, même si effectivement il y a des obstacles qui se produisent en fait. C'est la raison pour laquelle HaKadosh Baruch Hu a voulu aider les Bnei Israël pour qu'ils puissent réellement faire réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. Et donc, cette montagne retournée qui les oblige à accepter la Torah, c'est une façon de les obliger à actualiser leur volonté, leur potentialité. C'est une aide qui est donnée ici pour que ce qu'ils ont voulu alors se réalise concrètement, se réalise effectivement. Ils ont voulu l'accepter, cette Torah, et maintenant on les contraint, donc il n'y aura pas de possibilité de revenir en arrière. Donc malgré tout, finalement, les Israël ont accepté la Torah à leur corps défendant. Mais c'est pas ça qu'il faut entendre. Il faut entendre ici que ce qu'ils ont accepté sous la contrainte, c'est ce qu'ils voulaient vraiment accepter. Ils l'ont accepté de tout cœur, et puis ensuite, il y a une contrainte qui n'est là que pour les empêcher de céder à devant des obstacles qui viendraient les empêcher de réaliser leur propre volonté. Donc c'est une aide qui leur est donnée, en fait, pour réaliser ces choses-là. On apprend donc ici que le chesed d'Hachem, c'est que Hachem ne laisse pas l'homme tout seul. Il l'aide dans son désir d'élévation, et parfois, ça doit passer par une kfia, par une contrainte, pour que l'homme réussisse à faire ce qu'il voulait faire. Et c'est ça ce que Chazal disent quand ils disent que Beder Shadam Otseleler, dans le chemin que l'homme veut emprunter, Ba'a Molechinoto. Dans ce chemin, on le guide. On, ça veut dire, Hachem l'aide à avancer dans ce chemin-là. Après ça, on peut expliquer d'une nouvelle manière, en quelque sorte, cette redondance, en fait, dans le tzivouï, dans l'ordre. Daber el ben Israël, ve'amarta alehem, comme on l'a vu. C'est-à-dire, la mitzvah de la Shemitah fait partie des mitzvot qui sont très difficiles. Parce que, dans cette année-là, l'année de la Shemitah, l'homme doit abandonner son champ, en quelque sorte. C'était, a priori, ce champ qui le nourrissait. Il faut le laisser aux gens, aux passants, il faut le laisser aux chayot asadeh, aux animaux. Et ce nisayon-là, cette épreuve-là, c'est une épreuve qui sort complètement de l'ordinaire. Et donc, les gens qui réussissent cette épreuve sont appelés Gibor et Koach, des gens puissants, des gens qui ont beaucoup de force. Et dans le Midrash, on dit, Lama Nikrashman Gibor et Koach, pourquoi est-ce qu'ils sont appelés Gibor et Koach? Parce que Roé, Shesadeu Mufkaret, Ilanotav Mufkarim, Vasiagim Furatsim, il voit que son champ est Efker, il est ouvert à tout le monde. Ses arbres fruitiers aussi. Les barrières sont en quelque sorte défoncées. Il voit qu'on mange ses fruits. Et il se maîtrise. Et il ne dit rien. Tu dis, Chachamim, Ezeu Gibor HaKovesh et Yisro, comme on dit dans Pirkei Avot. C'est pour ça qu'ils sont appelés Gibor et Koach. Donc c'est là, dit-il, la raison pour laquelle la Torah ressent cet ordre de la Shemitah. Elle ressent qu'il faut le répéter deux fois pour montrer que, surtout ne t'imagine pas que tu pourrais prendre cette chose à la légère. Et ne laisse pas le Yetzer Hara prendre le pouvoir et te raconter que c'est pas possible, c'est trop difficile, etc. Et donc, comme Chazal ont l'habitude de dire, Yarda Torah al Sof Da'ato, chez la dame, la Torah a compris le raisonnement que l'homme peut être amené à se faire. Elle a su que, bien sûr, les gens veulent faire bien, seulement, il y a des situations, donc c'est trop difficile, où on a besoin d'un renforcement. Et donc c'est pour ça que l'ordre vient, deuxième ordre, pour donner plus de force, mettre l'accent et dire qu'il est hors de question de se laisser aller dans ce domaine-là. Mais on peut dire que, pour ça que la Torah dit sur cette mitzvah, était dit, dire qu'elle a été dite au Sinaï, parce que évidemment, pourquoi dire qu'elle a été dite au Sinaï, puisque en fait, toutes les mitzvot ont été dites au Sinaï. La Torah veut dire ici que de la même manière que au Sinaï, HaKadosh Baruch Hu a aidé les Bnei Israël à réussir, tout de suite il a mis en place de l'aide pour qu'ils réussissent à faire ce qu'ils voulaient vraiment faire, en retournant à la montagne, heureux. Dans la mitzvah de Shemitah, il y a aussi de l'aide. D'accord? On a retrouvé l'aide du type Sinaï qui est donnée ici dans le texte de la mitzvah de la Shemitah. Donc, ici, on comprend très bien qu'il faut l'entendre pas du tout comme quelque chose qui viendrait nous déranger, mais au contraire, quelque chose qui vient nous aider. Donc, Kadosh Baruch Hu ici vient aider les hommes à faire quelque chose d'extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que, si vous voulez, c'est de l'ordre de l'impossible. C'est en cela le peuple juif est complètement différent de tous les peuples de la terre. Tous les peuples sont attachés à leur terre et se conduisent sur leur terre en tant que propriétaires. Et nous, non seulement c'est notre terre, mais c'est Hachem qui a dit que c'était notre terre. Mais en même temps, il nous a interdit de nous conduire sur cette terre comme des propriétaires. Alors évidemment, on peut se demander en quoi est-ce que c'est si terrible de se conduire en propriétaire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se conduire en propriétaire? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là? C'est quoi la propriété? C'est on te dit pas que tu n'as pas le droit de posséder quoi que ce soit. C'est la terre, en principe. Là, c'est la terre. C'est sur la terre qu'il y a cette interdiction de se conduire en propriétaire. Et cette idée de ne pas se conduire en propriétaire, bien qu'on soit tout à fait persuadé que la terre est à nous. Ça, on a déjà entendu ça d'Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu a dit à Ephron, qui lui a dit Yer Betoshav Anochi Imachem, et que Avraham Avinu a dit à Ephron, il a dit je veux bien jouer l'étranger sur cette terre. Cette terre, elle est à moi, Hachem me l'a donnée. Je veux bien être étranger. Je veux bien payer un prix complètement démesuré pour pouvoir enterrer Sarah. Ça m'est égal que vous mettiez votre drapeau et que vous disiez que vous êtes chez vous, c'est vous les propriétaires, etc. Pour moi, ce qui est important, c'est que sur cette terre, je puisse faire ce que j'ai à faire. Si je peux faire ce que j'ai à faire sur cette terre, que vous disiez que vous êtes les propriétaires, ça ne me dérange absolument pas. Mais si vous me l'empêchez, alors, Tosham, alors je ferai valoir mes droits. Cette terre est à moi et je vous la prendrai et je vous en chasserai. Et c'est ce qu'Abraham Avinu a dit. Et donc, depuis le début de l'histoire du clan d'Israël, avec la terre, nous avons un problème particulier, en fait. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi avec la terre? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'on n'a pas le droit de devenir riche, par exemple? Peut-être qu'on doit faire vœu de pauvreté, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se comporter en propriétaire par rapport à quelque chose qui est à moi? C'est à moi. C'est pas tu n'es pas le propriétaire, ça ne t'appartient pas. Ça n'appartient à personne d'autre. Mais si vous voulez, là aussi c'est répété au début de la Torah. D'accord? Dans la fameuse question pourquoi la Torah elle commence par Bereshit, pourquoi elle commence pas par la Chodesh Hazelachem? Et là-bas, comme vous vous souvenez, c'est pour que il faut répéter, c'est les Bnei Israël, on leur dit, les Goïms vont vous accuser d'être des voleurs. On dit, vous êtes des voleurs puisque vous avez volé la terre. En fait, quand les Bnei Israël vont faire la guerre, ils vont prendre la terre. C'est vrai qu'ils vont prendre la terre des Cananéens, ils vont la leur prendre. Mais ils vont faire la guerre et prendre la terre. Alors, ils vont être accusés d'être des voleurs. Alors, d'une part, on va leur expliquer. D'abord, vous-même, si vous considérez que c'est du vol, alors vous êtes vous-même des voleurs, parce que vous-même, vous avez fait la guerre et vous avez pris une terre qui n'était pas la vôtre initialement. Donc, sur ce plan-là, on est réglé. Mais nous, c'est pas simplement pour faire comme vous. Parce que nous-mêmes, nous ne considérons pas du tout que c'est les lois de la guerre qui font que la terre est à nous. Ça, c'est simplement un argument qu'on vous donne quand vous nous accusez. Mais nous, on ne pense pas du tout que la terre est à nous parce qu'on a gagné la guerre. Nous, on pense que la terre, elle appartient à Hachem. Et que Hachem vous l'a donnée à vous parce qu'il pensait à un certain moment que vous étiez adéquat pour être vous sur cette terre. Vous avez quelque chose à y faire sur cette terre, mais qu'à un moment donné, vous vous êtes disqualifié et Hachem vous a enlevé la terre. Hachem ne vous a pas enlevé la terre parce qu'il voulait nous la donner. Il vous a enlevé la terre parce que vous ne la méritiez pas, parce que vous n'étiez plus à votre place à cet endroit-là, à ce moment-là. Et à part ça, il nous l'a donné à nous. Mais pas parce qu'on était meilleur. Parce que les choix d'Hachem, ils sont complètement arbitraire. Hachem choisit, c'est lui qui décide. C'est pas, comme c'est marqué, on n'est pas sorti de Mitzrayim parce qu'on était meilleur, etc. D'accord? Alouav de Avnazara, Alouav de Avnazara jusqu'au bout. C'est simplement qu'Hachem a jugé que, à ce moment-là, c'est nous qui devions être sur cette terre. Et il s'agit d'être sur cette terre. Et curieusement, cette terre sur laquelle nous devons être, Hachem a décidé qu'on serait, on est sur cette terre, c'est très curieux. On est sur cette terre et la terre nous est donnée en héritage. Je me suis souvent demandé, qu'est-ce que ça vient à nous dire ici que la terre elle est donnée le Nahala comme héritage. L'héritage, c'est quelque chose qui vient sans qu'on travaille pour l'avoir. On fait rien, on se qualifie pas pour avoir un héritage. D'accord? C'est simplement que la génération d'avant, ceux qui étaient les propriétaires, d'accord, bon, sont morts, et la terre est arrivée chez nous, comme un fleuve, c'est comme une nahala, ça coule, ça a coulé et c'est arrivé chez nous. Mais du coup, nous sommes héritiers de cette terre. On est les héritiers de qui? Nahlat Goïm. Hachem a décidé que nous allions hériter les goïms. D'accord? Ça veut dire que on comprend très bien que vous étiez vous sur cette terre. Vous aviez à y faire quelque chose dont nous allions hériter. Effectivement, on a hérité de la terre. Quand les Israélites entrent en Eretz Israël, quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi l'ordre n'a pas été donné aux Bnei Israël de faire Taboula Rasa. Qu'est-ce qu'on va entrer dans un pays d'idolâtres? Tout est bourré d'idolâtrie. Hachem n'a pas du tout dit qu'il fallait tout détruire. Il a dit, vous allez détruire les misbechot, vous allez arracher les arbres sacrés, mais vous allez bénéficier. Les arbres sont pleins de fruits, les vignes sont pleines, les maisons sont là, tout est là. Prenez, héritez-en, prenez-le. Pourquoi c'est dérangeant? C'est un peu dérangeant parce que quand on regarde, je vous ai déjà dit, je crois, certains en tout cas de ces choses, ces arbres-là qui sont là pleins de fruits magnifiques et tout ce que vous voulez, ils ont certainement été plantés par ces Cananéens. Et quand ils ont planté les arbres en question, ils ont sûrement fait des sacrifices à leurs idoles, éventuellement des sacrifices humains. C'est sûr que les Goïms ont fait des sacrifices. C'est sûr qu'ils ont sûrement remercié ou investi dans leur divinité pour que les divinités les aident à ce que ça pousse bien, etc. Et donc nous, on va manger des fruits d'arbres qui ont été plantés par des idolâtres avec des pratiques idolâtres. On va habiter des maisons qui ont été construites. Les maisons, on ne construit pas de la même manière ici et là. Les maisons, elles sont aussi l'expression d'une certaine culture. Nous, la distribution des pièces dans une maison, si c'est sont des maisons qui sont construites pour les Bnei Israël, elles sont construites pas de la même manière. Si on veut respecter, regarder simplement même de l'extérieur, quand on veut respecter dans les endroits où on veut respecter des lois, eh bien on s'arrange pour que les balcons ne soient pas les uns sur les autres, parce qu'on sinon on ne pourra pas faire de soukot. Donc vous voyez tout de suite, quand vous voyez une maison, vous voyez tout de suite si c'est une maison qui était construite avec un souci de respect de mitzvot ou pas. Vous avez les pièces, les lavabos sont pas aux mêmes endroits, ils sont pas dans les toilettes, ils sont à l'extérieur, les lave-mains, etc. Il y a toutes sortes de choses, la cuisine éventuellement, elles sont arrangées différemment pour que on puisse mettre d'un côté le lait, de l'autre côté la viande, etc. Tout ça, ça n'existait pas évidemment. Mais même au contraire, c'était l'expression de leur culture à eux. Et la Torah, elle a dit, vous héritez de tout ça. On est Nachlat Goyim, c'est l'héritage des Goyim. Et donc ça veut dire, Hachem a décidé que maintenant c'est nous qui devons être sur cette terre. Mais on sait bien qu'il avait décidé avant, c'était vous, et vous, avec ce que vous êtes, vous avez travaillé cette terre d'une certaine manière, manière qui ne plaisait pas probablement à Hachem, mais néanmoins Hachem a utilisé ce que vous avez fait, et vous avez travaillé pour nous. Vous avez travaillé de telle sorte que nous, à partir du moment où on a conquis cette terre, après on a fait le partage, au bout de 14 ans, on était d'une certaine manière de plein pied. On pouvait déjà, pendant tout ce temps-là, on a pu profiter du produit, du travail des idolâtres qui étaient là avant nous. C'est quoi? Ça veut dire que la terre, pourquoi est-ce qu'on donne la terre à celui-ci ou à celui-là? Pourquoi la terre nous a été donnée à nous? Parce que la terre, cette terre-là, en principe, spécifiquement celle-là, c'est la terre dans laquelle nous pouvons nous épanouir. S'épanouir veut dire, nous pouvons être exactement ce que nous avons à être. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur cette terre-là, faire des mitzvot qu'on ne peut pas faire ailleurs. C'est comme ça. Vous pourrez dire, pourquoi est-ce que on prendrait pas la trouma sur les céréales qui ont poussé dans la Beauce ou je sais pas ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on n'y aurait pas la trouma à prendre sur les vignes du Bordelais ou de la Bourgogne, etc. Super vin, d'accord? Pourquoi on ne pourrait pas? C'est pas fait pour ça. C'est voilà. Ou on va pouvoir effectivement prendre des cépages du Bordelais ou de la Bourgogne et transplanter en Eretz Israël. Et au bout d'un certain temps, effectivement, on aura de ce vin-là, mais produit sur la terre d'Israël, sur lequel on va pouvoir pratiquer les mitzvot à Kliyot Baaretz. Donc, il y a des mitzvot qui sont faites pour cet endroit-là. Quand on a partagé la terre d'Israël entre les différentes tribus, si on réfléchit, on pourrait se dire, bon, on est sorti, on est une tribu parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Au début, on était une famille, et puis la famille, elle a grandi, et puis on a gardé un peu les attaches avec tel ou tel arrière-grand-père, etc., plutôt que l'arrière-grand-oncle. Mais quand on arrive en Eretz Israël, pourquoi est-ce qu'on a partagé la terre d'Israël entre les tribus? Dans le désert, on avait une façon de marcher dans le désert, d'habiter l'espace. D'accord? Il y avait 4x3 tribus, tout, etc., tout ça. On arrive en Eretz Israël, ça n'existe plus, cette organisation-là. Mais on va mettre les tribus en fonction de ce qu'elles ont de spécifique. Ça, c'est une tribu qu'on va mettre au bord de la mer. Ça, c'est une tribu de la montagne. C'est qu'on appelle ça les montagnes. Les collines, je sais pas. D'accord? Ceux-là, ils sont de la plaine, etc. Donc, ça veut dire que la Torah, elle sait, voilà, les gens de la tribu de Zvouloun, d'accord? Ou la tribu d'Issachar, voilà, eux, ils ont besoin d'une terre qui est comme ci ou comme ça. Parce que c'est sur ce genre de terre qu'ils pourront s'épanouir, qu'ils pourront donner ce qu'ils sont capables de donner. irait pas ailleurs. Si on les met ailleurs, bah, ils vont faire les choses, mais ils seront, c'est ça le galout. On est sur une terre sur laquelle on ne peut pas donner, c'est pas la propriété de la terre qui nous intéresse. Bien sûr que en galout, on n'est pas chez nous. Mais on pourrait, on peut, bon, Hachem, dans, aujourd'hui, en tout cas, dans beaucoup de pays, on peut faire les mitzvot qu'on veut faire. On peut les faire. Bon. Mais néanmoins, la terre elle-même, bon, l'organisation de la terre elle-même, eh ben, elle favorise pas, elle n'est pas porteuse. Alors que, en Eretz Israël, c'est porteur. Vous comprenez? Et donc, c'est ça le problème de la terre. Parce que si tu te prends pour un propriétaire, alors, quelque part, c'est, oh, tu vas faire ce que toi tu veux, mais c'est pas ça le problème. Savoir te rappeler qu'en vérité, sur cette terre, tu es là, elle est à toi. Pourquoi à toi? Parce que tout ce qui nous est donné pour qu'on serve Hachem. Le monde entier a été créé pour moi. Un peu pour vous aussi, mais pour moi. Parce que moi, j'ai des obligations. D'accord? Et vous pouvez dire la même chose que moi. C'est pas breveté, vous pouvez le prendre. D'accord? Ça veut dire, voilà, moi j'ai des obligations et je dois considérer que le monde entier est fait pour moi pour faire face à mes obligations. Et chacun doit se dire ça. Il faut dire ça. Ce sont mes obligations. C'est-à-dire, et donc, si maintenant je m'imagine que la terre elle est pour moi, pour que je sois propriétaire, que je puisse m'asseoir dessus et propriétaire, j'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Et non seulement on nous dit que la terre, même nous-mêmes, quand on répond aux accusations des goyim et quand on leur explique quelque chose, on dit la terre, elle est faite pour y faire des choses qu'Hachem veut qu'on y fasse. Mais si nous ne sommes pas à la hauteur, on ne va pas y rester longtemps. Et malheureusement, de facto, la terre nous a déjà vomi deux fois. Bon, nous sommes en galoute. Nous avons été déjà en galoute, en Babel. Nous sommes maintenant dans la galoute du quatrième royaume. Bon, et ça dure. Bon, ça nous a pas empêché de produire tout ce qu'on a produit. La plupart des Sfarim qui sont autour de nous, y compris le Talmud Babli, tout ça, ça a été produit en galoute. Et ça a été produit dans des conditions de pogroms, de croisades, etc., de massacres et d'extrême pauvreté certaines fois. Bon, ça ne nous a pas empêché de faire ça. Mais néanmoins, il y a des mitzvot qu'on n'a pas pu faire. Et peut-être que même les mitzvot qu'on a faites, bon, si on regarde le Ramban et d'autres, les mitzvot qu'on a faites, elles sont presque des mitzvot qu'on a faites pour pas perdre la main, là, pour que quand on arrivera en Eretz Israël, on sera vraiment capable de les faire. C'est un peu comme quand on éduque un enfant. On éduque un enfant au mitzvot pour que le jour de sa bar mitzvah, il n'y a pas 613 mitzvot qui lui tombent sur la tête, donc il n'a aucune idée comment on les fait. Donc on l'éduque petit à petit, en fonction de ses capacités, on va l'éduquer. Nous aussi, quelque part, durant le galout, on ne perd pas la main, continue de faire les mitzvot, et on a vraiment l'impression qu'on les fait aussi bien, on les fait bien. Et il y a des textes, effectivement, on dit que, bon, on n'est pas moins bien qu'eux, que les gens qui étaient en Eretz Israël. On n'est pas moins bien. Mais on pourrait dire on n'a pas l'aide, l'en plus, justement. C'est en plus qui est donné. On voit très bien la Shemitah, hein, elle est dite deux fois pour que on sache qu'Hachem nous aide. Quand les mitzvot sont difficiles, il y a une aide d'Hachem. Ça veut dire que même les mitzvot qu'on fait, il faut toujours être conscient. En réalité, il y a toujours un coup de pouce d'Hachem pour qu'on puisse les faire comme il faut. D'accord? C'est-à-dire que, bien sûr, on n'enlève pas le mérite de chacun. On a fait les mitzvot parce que on a pris sur nous, on a fait des efforts pour faire ces mitzvot. On les a faites. Elles sont faites, c'est vrai. Mais si on y regarde un peu plus près, on s'apercevra qu'il y a toujours un coup de pouce qu'Hachem nous a donné pour pouvoir faire les mitzvot. Si on n'a pas fait, c'est parce qu'on n'a pas on ne s'est pas suffisamment investi, mais en fait, il y avait déjà des possibilités pour les faire. Et pour et là où ce qu'on ne pouvait pas faire, Hachem ne nous demande pas de faire les choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc c'est ça qui est... Alors ça, c'est une leçon pour toutes les mitzvot. Arc et Gigit, c'est pour toutes les mitzvot. Et là, ici, on a un rappel. Alors on pourrait dire, ce rappel-là, c'est peut-être la même chose que le rappel dans le Mishneh Torah. Quand dans le Mishneh Torah les choses sont répétées, c'est pour nous donner un petit coup de pouce. Et attention, c'est important là. Tu l'as entendu au Sinaï déjà, je le répète. Pour que tu, voilà. Maintenant, dans la vitesse de croisière, si vous voulez, dans le désert, on a le temps de réfléchir, puisque on se promène dans le désert à la suite de la côte des Meraglim, finalement. Eh bien, voilà, il faut savoir que les mitzvot, elles sont très importantes, et je te les répète. Je te répète, celles que j'ai décidé de répéter, ça veut dire celles qui correspondent à une difficulté particulière. Elles sont répétées, toutes ne sont pas répétées, mais celles qui sont répétées, on peut les entendre comme ça, comme une répétition, parce que il s'agit de quelque chose de particulièrement difficile. On est conscient que c'est difficile. C'est très dur. Mais le Shabbat aussi, il est dur. C'est dur aussi de faire le Shabbat. Mais bon, c'est aussi répété plusieurs fois. Bien. Alors, donc il y a évidemment toutes sortes de mitzvot dans...
Mais excusez-moi, en ce qui concerne les mitzvot, donc Shemitah et en particulier le Yovel, la Torah nous dit qu'il faut faire, il faut pas léser l'un l'autre à l'approche donc du Yovel. C'est-à-dire il y a un système de prendre en compte le fait de cette réalité. Mais aujourd'hui, comment c'est possible? Comment qu'est-ce que
il n'y a pas de Yovel aujourd'hui?
Oui.
Parce que le Yovel, si vous voulez, c'est un peu, c'est très très exigeant et c'est presque utopique parce que le Yovel n'a lieu que quand tout Israël est sur la terre d'Israël. Et du fait qu'il n'y a pas de Yovel, alors la Shemitah non plus n'est pas à la hauteur maximale. Parce que la Shemitah est aussi une composante du, alors on la pratique, bien sûr on l'a fait. On pratique la Shemitah. Mais elle n'est pas aussi haut que c'est pas aussi haut que ça pourrait être si on vivait avec dans un temps qui serait marqué par le Yovel.
Je comprends bien, mais ma question et mon interrogation justement par rapport à la Shemitah, c'est que finalement c'est les produits de la terre, donc c'est ceux qui la travaillent. Précisément, concrètement, donc ce sont les agriculteurs.
C'est eux les Giboré Koar. C'est pas nous. Nous, on va acheter chez le marchand qui respecte la Shemitah.
Justement.
C'est pas mal. Justement. Mais on fait ce qu'on peut. On n'est pas. Agriculteur. Vous n'êtes pas agriculteur. En ce moment, moi, je ne suis pas agriculteur et vous non plus.
Justement, cette mitzvah-là, elle ne concerne que ceux qui.
Non, pas du tout. Pas du tout. Puisque nous non plus, on peut pas manger les fruits d'un champ dans lequel on n'aurait pas respecté la Shemitah.
Oui, mais nous, c'est pas notre parnassa.
Non, c'est pas notre parnassa, bien sûr. C'est chacun à son niveau. Mais la difficulté, elle n'est pas la même. La difficulté, elle n'est pas du tout la même si quelqu'un est un... Par ailleurs, c'est un paysan, mais il est très riche par ailleurs. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, moi, il fait en même temps de l'élevage. Où il fait, il fait autre chose. Dans les kibboutzim, par exemple, les endroits qui respectaient la Shemitah, ben, ils ont développé une industrie particulière qui leur permettait de vivre pendant l'année Shemitah.
Ils ont fabriqué des portes. Le problème de la terre, comme vous l'avez mis en évidence, c'est justement le problème du rapport à la propriété. Et c'est te dire, pourquoi ça ne concernerait que les paysans?
Non, pas du tout. C'est pas un rapport à la propriété en général. puisque vous pouvez être propriétaire de tout ce que vous voulez. Vous pouvez acheter les immeubles de tout Tel Aviv.
Oui.
Ça ne vous dérangera pas. Bon, c'est un problème de ce qui culture, de la culture. Donc, et ça touche un certain domaine. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui est dans la propriété de celui qui travaille la terre. Lui, il a un rapport particulier avec la terre. Que nous n'avons pas. Vous pouvez être propriétaire de biens immobiliers, ça ne donne pas un rapport à la terre. Ça reste quand même un bien. Les biens immobiliers, ils sont immobiliers, ils pourraient être immobiliers. Immobilier, ça ne changerait rien de ce point de vue-là. C'est considéré plus stable, etc. Mais il n'y a pas de rapport à la terre. Or, ce qu'on veut, c'est justement un rapport à la terre pour savoir que la terre nous porte dans certaines mitzvot. D'accord? Et peut-être même, d'une certaine manière, dans toutes les mitzvot. Alors, il faut, ça commence à un endroit particulier, mais si vous voulez, on voit bien que c'est seulement celui qui a une terre qui va pouvoir apporter les bikurim. D'accord? Ça veut dire, Shavuot qui est Chag HaBikurim. D'accord? C'est tout un truc, parce que nous, on va être les gens qui l'applaudissent. D'accord? Quand ils vont arriver avec leur panier, etc., nous, on va faire la haie, on va les féliciter, etc., on va applaudir, etc. D'accord? Mais, quelque part, c'est pas nous qui avons fait le boulot.
Ils sont minoritaires.
C'est à nous à reconnaître le travail qu'ils font. D'accord? Et, quelque part, ça voudra dire que si je peux l'aider, quelque part, est-ce que je peux aussi peut-être l'aider, participer d'une manière ou d'une autre. Et ma participation...
Je pensais à ce passouk où il est dit « ne lésez pas l'autre » parce que finalement, il est compensé quelque part et on participerait quelque part. Parce qu'ils sont quand même très minoritaires.
La participation standard, ce serait d'acheter au vrai prix, on va dire aujourd'hui, pour ça, pendant les 6 ans, d'acheter sa récolte au vrai prix. Et c'est un prix qui lui permettrait de se consacrer à autre chose pendant la Shemitah. La Shemitah, elle vient pas seulement pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas propriétaire. C'est quand même un temps qui est donné, c'est un cadeau qui est fait à quelqu'un qui normalement est un peu esclave de sa terre. Oui, il faut la terre, il faut la travailler tout le temps, il faut tenir compte de la météo, etc. Bon, mais pendant la Shemitah, il peut étudier. La Shemitah était faite pour ça.
Ou il met les bouchées doubles pour faire
les moyens. Notre collaboration, si vous voulez, ce sera d'avoir acheté les choses au vrai prix, de telle sorte que ça lui laisse, qu'il fasse en 6 ans. Hachem dit, c'est moi qui enverrai la bracha. D'accord? Et la bracha, elle va venir même si tu demandes rien du tout. Si tu demandes, je vais t'expliquer comment je vais t'envoyer la bracha, mais elle sera un peu limitée, ce sera, mais autrement, sans que tu t'en rendras même pas compte. Et effectivement, les gens qui pratiquent la Shemitah sont pleins d'anecdotes dans lesquelles ils racontent. Mamash les Nissim, bon, alors eux, ils ont privilégié. C'est vrai qu'ils prennent sur eux pour faire la Shemitah, mais c'est eux qui voient les Nissim. Ils nous les racontent, et nous, on est là. Ouais. Mais c'est pas arrivé, ça nous est pas arrivé à nous. Mais donc ça veut dire on est plus loin et on est censé prendre des leçons de ce qu'ils nous racontent. Mais voilà, on est spectateur, auditeur de quelque chose qu'on n'a pas vu nous-mêmes, on n'a pas ressenti nous-mêmes, on n'a pas ce privilège. Donc c'est comme ça. Il y a un statut de l'agriculteur. C'est quand même lui qui nourrit. Il peut, mais il ne doit pas non plus se prendre en propriétaire. C'est sûr que celui qui se dit mais c'est moi qui nourris le peuple, quoi. Finalement, c'est moi qui travaille pour que le sol produise le blé dont les gens ont besoin pour faire du pain.
Tout à fait.
Quelque part, il y a un orgueil.
C'est que
cet orgueil est très dangereux de se prendre pour le nourricier.
Tout à fait. Mais ce qui me paraît un peu, qui m'interpelle, c'est que finalement, ça concerne un nombre très faible. Par rapport au clan, c'est très...
Aujourd'hui,
très...
parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui... Il y a peu de gens qui sont investis relativement, mais ça n'a pas d'importance. La question du nombre n'a jamais été importante, surtout pas chez nous. On est à Mehat Mikolamim et Hashkosh Bokhouin. S'il avait voulu, s'il avait voulu,
on serait
un Torah aux Chinois ou aux
Indes. D'accord.
L'habitant de l'Inde, il aurait plus de chassidim. D'accord. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas comme ça qu'il fait les choses.
Pardon, Rav. Excusez-moi. Mais, en fait, c'est normal que les mitzvot liées à la terre soient difficiles à accomplir. Puisque Eretz Israël, c'est une moracha. Pour le Balatourim, dans Vezat Abiracha, il explique qu'il y a moracha pour la Torah et pour Eretz Israël.
Oui, alors.
Et donc, c'est tout à fait normal que ces mitzvot-là soient difficiles à accomplir, que la Shemitah et que la Torah l'encourage. C'est pas une nachala, je veux dire, c'est pas un héritage qui nous vient. On est prioritaire par rapport à la terre, mais pour la conserver, ça demande beaucoup d'efforts, au même titre que la Torah. C'est pas une Yerusha. Il me semble que c'est une Moracha, c'est pas une Yerusha.
C'est pas la terre, elle est donnée comme nachala. C'est pas Moracha avec la Dracha de Moracha. Mais l'important, c'est que cette terre, elle a été donnée, comme je vous ai expliqué, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous épanouir.
Oui.
Et bien sûr, la Torah, c'est l'autre façon. Enfin, c'est une autre façon, mais c'est une façon qui s'impose même à ceux qui ont la terre. C'est sur la terre, avec l'aide de la terre. C'est une aide que Hachem nous donne par le biais de l'aide qu'il donne dans le travail de la terre et dans la vie avec la terre, en fait. Il nous aide à faire les mitzvot. Il y a les mitzvot en particulier. Alors c'est normal que c'est difficile, mais parce que c'est difficile, tout de suite la Torah a dit, je sais que c'est difficile,
je vous
garantis, ce que je vous ai expliqué, je vous garantis tout de suite, dès le moment où on mentionne la Shemitah, immédiatement, je vous annonce tout de suite que je vais vous aider comme j'ai aidé les Bnei Israël, vous tous, au Sinaï.
D'accord.
C'est ce qu'on a essayé d'expliquer.
D'accord.
Donc, on est dans cette situation-là. Voilà, c'est sûr que ça concerne au plus haut point, si vous voulez, ceux qui travaillent la terre. Mais ça nous concerne tous, parce qu'on a tous un rapport avec la nourriture qui est produite dans la terre. Et donc, on a des obligations économiques, etc., pour aider les gens, pour tenir compte, pour leur permettre de vivre de cette terre et de vivre une septième année, si vous voulez, aussi avec le produit. Bon, alors maintenant que qui est à manger, c'est une chose, mais que eux, effectivement, bon, ils ont pu en profiter parce que le Tziviti et Birchati, ça veut dire peut-être les autres années, l'année d'avant, ils ont pu vendre beaucoup plus de blé, et donc ils se sont fait du blé au sens habituel du terme, ils ont fait suffisamment de blé pour pouvoir en vivre pendant la septième année. Ah, c'est ça. Et puis ensuite, bon, alors nous on lit en même temps, cette semaine, on va lire en même temps la parasha de Chukotai, où là aussi, on nous annonce que si vous allez comme Im Bechukotai Telechu, alors, si est un facteur, donc, Vet Mitzvotai Kishmeru, Vasitem Otam, vous allez garder et faire et pratiquer mes mitzvot, alors natati la bracha, imaginez-vous. Ouais. Si vous suivez mes mitzvot, voilà ce que je vais vous donner. C'est quoi? Ishmechem beita. Et la terre, elle va donner ce qu'elle peut donner. Et les arbres, etc. Et effectivement, vous allez avoir une telle abondance que les récoltes vont se collisionner littéralement. Vous n'avez pas fini de récolter une chose que déjà viendra la récolte de la chose suivante. Donc c'est une bracha extraordinaire. Et puis ça sera culminé. La bracha, elle va culminer. Natati shalom ba'aretz. Il y aura la paix. Donc c'est énorme. C'est tout ça pourquoi on te demande pas de faire des choses extraordinaires. Vous devez faire ce que vous avez à faire. On ne te demande pas. C'est pas, voilà, je vous ai donné 613 mitzvot. Alors maintenant, je vous en donne quelques-unes en rab. Et si vous faites les mitzvot en rab, alors vous aurez shalom ba'aretz. Pas du tout. On te demande pas d'en faire plus que ce que je t'ai donné. Il n'y a pas de plus que 613 mitzvot qu'on a reçu au Sinaï. Mais seulement, b'chukotai t'elechu. Alors, d'abord, les chukim. Les chukim, comme vous savez, c'est les mitzvot qui ne sont pas rationnels. C'est les mitzvot dont les goïms et les yitzhara se moquent. Ils disent qu'il faut être débile pour faire des choses pareilles. C'est des choses incompréhensibles. Et après, avec mitzvotai tishmeru v'asitem otam. Et après, les mitzvot. Ça veut dire qu'en fait, même les mitzvot, je veux que vous les fassiez, on a déjà vu ça par ailleurs, je veux que vous fassiez aussi ces mitzvot exactement comme vous faites les chukim. Parce que les mitzvot, dans les mitzvot, il y a les mishpatim, par exemple, les mishpatim qui sont les mitzvot rationnels, et on pourrait, comme Rashi explique, c'est les mitzvot, qui, même si elles n'avaient pas été données, on les aurait faites de nous-mêmes. Alors, vient la question, évidemment, alors, si on les aurait faites de nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'il nous a donné? Si Hachem, il a créé un homme qui est capable de faire naturellement les choses, pourquoi est-ce qu'ensuite il vient nous demander de les faire? Bon. Et justement, on vient te demander de les faire de la même manière que tu fais les chukim. De les faire parce qu'Hachem les a ordonnés. Et pas parce que ton Sechel t'a dit de les faire. Vous avez un peu la même chose chez les, dans les Shema Mitzvot des Bnei Noach. Si quelqu'un, si un Ben Noir fait les mitzvot qui lui sont prescrites, c'est très bien, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais s'il veut être plus que ça, il veut être Mechassideo Motaolam, etc., alors il faut qu'il fasse ces mitzvot parce que elles lui sont arrivées par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, qui lui a dit que, qu'il dit, bien sûr, ces mitzvot, c'est clair qu'elles ont été données à un temps de Adam et Noach, mais c'est Moshe Rabbeinu qui leur amène tout ça. S'ils les font parce qu'elles ont transité en quelque sorte par Moshe Rabbeinu, elles ont tout à fait une autre valeur. Qu'est-ce que ça change? Ils font la mitzvah elle est faite. Ici, pourquoi c'est important de faire les mishpatim parce que c'est Hachem qui les a donnés? C'est aussi Hachem qui m'a donné mon sechel, et si mon sechel il produit cette mitzvah, il produit cette conduite-là, eh ben c'est pas une mitzvah formellement à mettre dans le compte des 613 mitzvot, mais c'est la même chose, c'est bien d'Hachem. Pourquoi c'est important de les faire comme des chukim? C'est tout à fait une autre dimension, au point que on dit très clairement que, et là c'est peut-être plus facile à comprendre, que si deux juifs ont un problème, et ils savent très bien que s'ils vont au tribunal civil, il y aura exactement la même décision que celle que donnerait un Beth Din, ils n'ont néanmoins pas le droit d'aller au tribunal civil. Pourquoi on ne peut pas aller finalement le résultat elle-même? Bon. Non, ça n'a rien à voir. Parce que le tribunal civil, il est basé sur une certaine philosophie, on va dire comme ça. Et nous, c'est basé sur la reconnaissance que c'est Hachem qui a créé le monde et que par conséquent, nous sommes dans ce monde, on a un certain rôle à jouer qu'Hachem nous a confié, et Hachem veut qu'on se conduise comme ça, effectivement, qu'il se trouve que ça correspond parfaitement à ce que notre Sechel, qui nous a aussi été donné par Hachem, va nous dire de faire. D'accord? Mais la référence ultime n'est pas du tout la même. Donc, et ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que je le fais? Alors, des chukim, j'apprends que je l'ai fait parce que Hachem les a donnés. Pourquoi est-ce qu'on a accepté, nous, la Torah? D'accord? La Torah, on l'a acceptée sans savoir ce qu'elle contenait. C'est pas très intelligent. S'engager à quelque chose sans savoir ce que ça contient, non seulement c'est pas très intelligent, mais en vérité, ça marche pas vraiment. Dans la halakha, si vous faites un chèque en blanc, ça marche pas. Vous êtes engagé à rien du tout. C'est simplement de la bêtise. Mais vous n'êtes pas engagé, vous n'avez rien fait. Vous comprenez? Donc ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on a accepté la Torah? On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. On a seulement accepté
à cause de la montagne,
parce qu'elle venait d'Hachem. Parce que ça vient de ce que ça vient de mon Créateur. De celui dont je sais qu'il veut mon bien. Et à ce titre-là, ça m'est complètement égal ce qu'il va demander. D'accord. J'ai entière, la confiance est absolue, 100% de confiance. Et donc, je me suis engagé. Je sais qu'il va pas, ça sera peut-être même très difficile, mais s'il me l'a demandé, c'est que je peux y arriver. Et quand Hachem a dit à Ishmaël et à Isav qui ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Et qu'il leur a dit qu'il y avait dans la Torah des choses qu'ils ne pouvaient pas accepter. C'est pas du tout un piège. Je vous ai déjà expliqué, c'était la séance de rattrapage. Parce que quand tu demandes, quand on te propose la Torah et tu demandes qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, t'as déjà perdu. T'as perdu parce que tu te places au-dessus de la Torah, puis c'est toi qui vas juger c'est bien ou c'est pas bien. Or la Torah, elle doit me prendre avant même que toute réflexion. Alors, Hachem a dit, vous avez perdu, mais je vous donne une séance de rattrapage. Et je vous dis, il y a dans la Torah quelque chose qui vous, a priori, vous a, ne peut pas vous apparaître autrement comme une impossibilité. Alors, vous devez réfléchir. Il est fou, il nous propose un truc, et en même temps, il nous dit que c'est pas possible. Alors, c'est quoi? C'est une démarche complètement incompréhensible. Donc, s'ils avaient réfléchi, ils auraient dit, non, ça n'a de sens que venant d'Hachem, qui est notre créateur, qui sait ce dont nous sommes possibles, nous sommes capables, et qui ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Parce que sinon c'est une injustice flagrante de nous proposer un truc dont il sait pertinemment qu'on peut pas l'expliquer, qu'on peut pas l'appliquer, on peut pas l'accepter. D'accord? Et les Bnei Israël, leur intelligence, si on peut parler comme ça, sera donc été de ne pas poser la question. Et ensuite, la Gemara rapporte l'histoire avec Rava là-bas, que on dit mais vous êtes complètement cinglé, vous vous engagez à des choses, vous ne savez même pas à quoi vous engagez. Tu vois ton pays, lui, il saigne là, parce que tu ne sais même pas à quoi tu t'es engagé. Oui, on ne sait pas à quoi on s'est engagé. Mais ça n'a pas d'importance. On s'est engagé à faire ce qu'Hachem nous a demandé de faire, et nous savons que c'est pour notre bien. Et donc, on a besoin de savoir ça, parce que il y a des situations où, clairement, on ne voit pas, nous, en quoi ça peut être pour notre bien. Il y a des situations très claires où on a l'impression que, non, si je devais réfléchir, je ferais autrement. Bon, Hachem, il sait mieux que moi ce qui est bien pour moi. D'accord? Et c'est ça mon idée de base. Je dois savoir ça. C'est comme ça qu'on a accepté la Torah. Et donc,
il y a quand même une question qui me vient à l'esprit. Supposez, Rav, vous êtes, je parle de vous, hein, pas de moi, vous êtes devant Hachem et Hachem vous dit de faire ça. Vous avez le choix.
Mais semble-t-il, le problème c'est qu'Hachem me demande pas. Hachem se cache. Il me demande, il n'est pas tout le temps là. S'il était tout le temps là, je pourrais pas, vous avez raison, j'aurais pas le choix.
Non mais
la difficulté est qu'Adam Bourri a créé le Olam. Le Olam, ça fait que Olam, ça veut dire le monde cache Hachem. Hachem est né l'âme, il est caché. Même s'il se manifeste, même quand il se manifeste, il est caché. Ça veut
au
dire
Sinaï aussi.
Pardon?
Au Sinaï.
Au Sinaï, Akadosh Baruch Hu s'est manifesté, et donc ils ont accepté dans la foulée, quoi, quelque part, mais il était. C'est aussi lui qui est allé auprès des Goïm. Quand c'est Hachem Misinaïba, enfin, mais quand on dit qu'Hachem vient, il arrive là-bas, il arrive au Sinaï, d'où est-ce qu'il vient? Ben, il vient chez Sav et Ishmael. Donc c'est lui qui est allé, il a proposé, donc ils ont dit non à Hachem. On pouvait donc dire, les êtres humains sont capables de dire non à Hachem. La preuve, nos cousins, ils ont dit non. Pourquoi? Parce que Hachem fait en sorte qu'on puisse dire non. Si Hachem voulait des robots, il aurait fabriqué des robots. Hachem veut justement être reconnu par ceux qui pourraient dire non. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Enfin, pour ça. Nous, on regarde, on dit que c'est pour ça, on n'en sait rien. C'est comme ça. Vous voyez, c'est... Donc l'idée c'est ça, toutes les mitzvot doivent être faites comme les coquilles, parce que c'est Hachem qui les a demandées. Même si je comprends va dire, ouais, non, ça je fais parce que je l'ai compris. D'accord. T'as de la chance. Il y a des choses, effectivement, où le gars, on disait sur le limonator, il dit, c'est super que ça soit une mitzvah parce que je n'aurais pas pu m'empêcher d'étudier la Torah. Donc, je suis content que ce soit une mitzvah.